Amen, alléluia. Béni soit Dieu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 17. Psaume 17, à partir du verset 1er. Nous allons lire ce psaume et nous arrêter sur le dernier verset. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel. Marche à sa rencontre. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Es-tu remplir le ventre de tes biens? Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Vous savez, il est parfois difficile de dire à qui l'Évangile doit le plus, à ses amis ou à ses ennemis. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'avec le secours de Dieu, ses amis ont fait beaucoup pour lui, les gens ont fait beaucoup pour l'Évangile. Ils l'ont prêché dans des pays éloignés, ils ont bravé la mort pour lui, ils ont risqué toutes choses pour Christ, et ils ont glorifié ainsi la doctrine et le nom dans lequel ils croyaient. Mais les ennemis de Christ, sans le vouloir, bien sûr, n'ont pas fait une petite part du travail. On s'aperçoit, par exemple, quand ils ont persécuté les serviteurs de Christ et qu'ils les ont dispersés partout, eh bien, ça a contribué à ce que l'Évangile soit prêché partout, par exemple. Ou bien, quand ils ont piétiné l'Évangile, il en était comme d'une certaine sorte d'herbe dont on parle en botanique et qui pousse plus drue, plus serrée quand on la piétine. Et quand nous lisons certaines pages des Saintes Écritures, certaines portions de cette parole de Dieu, bien nous devons, grâce au Seigneur, grâce aux ennemis de la croix de Christ, recevoir des révélations de la part du Seigneur. Jésus-Christ n'aurait pas prêché un certain nombre de ses discours si ses ennemis n'avaient pas, l'avaient pas obligé à le faire, parce qu'ils ont élevé des objections. Alors, nous avons aujourd'hui, heureusement, les réponses qu'il leur a données. Et les apôtres, c'est la même chose. C'était aussi le cas pour eux. Et il en est aussi ainsi du livre des psaumes. Si David n'avait pas été profondément éprouvé par ses ennemis, si ses ennemis n'avaient pas tiré leurs flèches sur lui, s'il n'avait pas mis dans une détresse profonde, s'il n'avait pas fait crier de misère, eh bien nous aurions manqué beaucoup des expériences admirables que nous trouvons là. Beaucoup de ces chants admirables qu'il a fait monter au Seigneur après sa délivrance et beaucoup de ces affirmations glorieuses de sa foi au Tout-Puissant. Mais quand il a été chassé comme une perdrix des montagnes, quand il a été poursuivi comme le chevreuil par les chiens des chasseurs, alors il allait se réfugier justement sur la cime des montagnes. Alors aussi, il a respiré l'air du ciel avec ses poumons fatigués. Et alors, il a rendu l'honneur à Dieu. C'est là qu'il a crié au Dieu Tout-Puissant qui avait remporté la victoire pour lui. Et il est heureux que cela se soit produit et que cela nous soit parvenu, n'est-il pas vrai? Donc voilà. Et cette phrase que nous avons là, cette phrase de notre dernier verset du psaume, « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Eh bien, ça suit une description des grands troubles et des grands ennuis que les méchants font subir aux justes. Et le secours, donc, que ce dernier trouve dans l'espérance de la bénédiction future. Hein. « Pour moi, dit le patriarche, en élevant ses regards vers les cieux, pour moi, dit le chef de bande, caché au fond de la grotte d'En Gedi, alors qu'il est poursuivi par ses terribles ennemis, pour moi, dit le jeune berger, qui est destiné à porter une couronne royale, mais qui, en attendant, doit lutter contre le lion et l'ours, pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Amen. » Alors, eh bien, nous pourrons voir, en étudiant ce passage, trois grandes choses. Déjà, en premier, nous parlerons de l'esprit dans lequel ce texte a été écrit. Ensuite, nous pourrons parler du contenu. Et enfin, eh bien, nous parlerons aussi du contraste que ça implique, que ce qu'un passage comme celui-là implique. Alors, parlons de l'esprit de cette affirmation en premier. Hein. Vous avez trois caractères à relever de l'état d'esprit de David quand il prononce ces paroles. Il est toujours bon de voir dans quel état d'esprit se trouve un homme. Hein, parce que, voilà, que ce soit lorsqu'il écrit, ou lorsqu'il parle, ou lorsqu'il prêche, et il y a beaucoup plus dans l'état d'esprit que dans les paroles qu'il va utiliser, bien souvent. Alors, que pensons-nous de l'esprit de ces paroles ? Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Eh bien, tout d'abord, ces paroles nous décrivent l'esprit d'un homme qui est entièrement libéré de toute envie, entièrement libéré de toute convoitise. Vous pouvez noter que l'auteur du psaume, le psalmiste, vient de parler des méchants. Il a dit juste avant, ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Verset 14, leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Mais David ne les envie pas, vous le voyez bien. Hein. Va, dit-il, homme riche avec toutes tes richesses, va, orgueilleux avec toute ta fierté, va, homme, oui, de cette attitude-là, avec tous tes enfants, bonheur passager, je ne vous envie pas. Parce que pour moi, mon lot est différent, ma part est différente. Je peux vous regarder sans désirer ce que vous possédez. Je peux facilement garder ce commandement. Tu ne convoiteras point parce qu'il n'y a rien que je désire de vos possessions. Je n'attache aucune valeur à vos trésors terrestres. Je n'envie pas ce monceau de poussière brillante qui est le vôtre parce que mon Rédempteur est à moi. Amen. Et frères et sœurs, vous savez, c'est une grande chose que d'être libre de toute envie. Ah, c'est une grande chose. L'envie, ça a été une malédiction terrible. Hein. Et c'est parce qu'il y a eu l'envie, hélas, que nous avons perdu aussi le jardin d'Éden, entre autres. Hein. Ben oui, c'est vrai. L'envie, c'est quelque chose, si elle pouvait souffler sur le soleil brillant, elle éteindrait son éclat. Si l'envie pouvait porter un regard mauvais sur la lune, elle la changerait en sang. L'envie est maudite du ciel. Elle est la première née, l'aînée de Satan. C'est le plus vil de tous les vices. Vous pouvez donner toutes les richesses à un homme, mais si vous lui laissez son envie, eh bien vous avez le ver à la racine de l'arbre, à la racine du bel arbre. Hein. Donnez-lui le bonheur, mais s'il a envie la place d'un autre, eh bien ce qui aurait dû être sa joie va devenir sa misère, parce que justement il n'est pas aussi grand que ce qu'un autre peut avoir ou que ce qu'un autre peut posséder. Mais donnez-moi la liberté, donnez-nous la liberté de toute envie, que je puisse être content de ce que Dieu m'a donné, que je puisse être content de la situation où je suis aujourd'hui, par le secours de Dieu, que je puisse dire, ben, je pourrais avoir ce qui est à toi, hein, mais je ne t'envie pas, parce que je suis satisfait avec ce que j'ai. Amen. Hein. Et puis qu'on puisse dire, c'est vrai, qu'on puisse avoir un amour pour nos frères et sœurs qui nous fait nous réjouir pour eux, et que plus ils ont, et plus on soit heureux pour eux aussi. Voyez-vous, c'est ça aussi, d'être dénué de toute envie, hein, et que ma flamme ne brûle pas avec moins de lumière, parce que peut-être la leur va surpasser la mienne. Donc, alors je suis heureux. Pourquoi ? Parce que tout autour de moi va être une occasion de me rendre heureux, parce que je vais pouvoir me réjouir de la joie des autres, je vais pouvoir faire leur bonheur, et puis ce bonheur, évidemment, va me revenir aussi sur moi. Amen, amen. Mais comment en vérité, en serons-nous le mieux délivrés qu'en croyant que nous possédons quelque chose qui n'est pas sur la terre, mais qui est au ciel ? C'est ce que nous voyons là. Si nous pouvons regarder les choses de cette terre et dire comme David, Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Alors nous ne pourrons pas envier les autres. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils possèdent, ce n'est pas ou plus adapté à nos goûts particuliers. Hein ? Donc, est-ce que le taureau envie le lion ? Ben non, parce que le taureau ne mange pas de viande. Hein ? Donc, le taureau n'envie pas le lion. Est-ce que la colombe est malheureuse parce que le corbeau mange de la charogne ? Ben non, bien sûr, puisque la colombe n'a pas du tout cette nourriture-là, comme habitude. Hein ? Donc, est-ce que l'aigle va envier le petit nid du moineau ? Ah non, parce que l'aigle s'élève bien au-dessus de tout cela. Et de la même façon, le chrétien, il s'élève aussi. Le chrétien s'élève comme l'aigle et il va pouvoir élever, étendre ses larges ailes pour s'élever au milieu des étoiles, là où Dieu lui a préparé un refuge, là où Dieu lui a préparé un nid, si on peut parler ainsi, là où Dieu lui a préparé un lieu de repos. Et il peut dire, pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Alors, je regarde les choses de la terre avec condescendance. Je ne veux pas de votre grandeur, puissant, oui, toi, César, je ne veux pas de ta puissance. Je ne veux pas de votre gloire, puissant guerrier. Je ne veux pas de ta richesse, Crésus. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai autre chose. Ma part est dans le Seigneur. Amen. Et le texte, donc, nous respire littéralement l'esprit d'un homme qui est libre de toute envie et que nous puissions également être ainsi par le secours de Dieu. Amen. Puis une deuxième chose que vous pouvez noter dans son état d'esprit, voici un homme qui regarde et considère le futur. C'est un homme qui s'attache aux choses de l'avenir. Et ça, c'est important. Lisez le passage et vous voyez bien qu'il est en rapport avec l'avenir. Parce qu'il dit, pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Je me rassasirai de ton image dès le réveil. C'est pas pour moi, je fais ou je dis comme ceci ou comme cela, mais je ferai. Et le psalmiste regarde au-delà de la tombe, il regarde dans l'autre monde, il passe par-dessus les trois lits de mort sur lesquels il lui faudra reposer, et il dit « dès le réveil », voilà ce qu'il dit. Et qu'il est heureux, l'homme qui a un regard dans le futur. Vous savez, même dans les choses de ce monde, nous estimons celui qui regarde plus loin que la journée d'aujourd'hui. Il est important que nous puissions avoir la vision de Dieu. Que nous puissions voir les choses comme Dieu les veut, comme Dieu les voit, que nous puissions avoir une véritable vision de foi. C'est très important, déjà, de la situation où on est, parce que c'est ça, hein, c'est ça qui, quand nous avons cette nouvelle vision, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir devenir ce que Dieu envisage pour nous. Hein. Et vous savez, si on n'est pas guidé par la vision de Dieu pour notre vie, alors vous allez avancer d'année en année, aveugle quant à la vraie nature de Dieu, aveugle quant à la puissance de Dieu, incapable de distinguer ce qu'on voit à ses yeux et incapable d'accomplir ce qu'il voudrait qu'on accomplisse. Vous savez, il faut une vision. Thomas Edison a vu la lumière dégagée par un filament incandescent avant de fabriquer la première ampoule électrique. C'est lui qui l'a fabriquée. Et il a eu beaucoup de tentatives pour y parvenir, mais il avait quelque chose qui le conduisait, c'était cette vision qu'il avait dans son esprit. Et c'est comme ça qu'il en est devenu l'inventeur. Plus près de nous, Bill Gates a vu un ordinateur dans chaque bureau et dans chaque maison, alors que les experts en informatique de l'époque déclaraient qu'il faudrait bien plus qu'une génération pour en arriver là. 40 ans avant que le premier Israélite pose le pied en terre promise, Moïse, par la foi, a vu cette terre promise. Dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 28. Et Dieu peut accomplir toutes sortes de miracles pour ceux qui voient les choses, pour ceux qui voient avec les yeux, qui ont les yeux du cœur, qui ont cette vision. Et c'est vrai que Dieu... Il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte que Dieu fait des miracles. Ils ne se rendent même pas compte que le Seigneur est présent. Ils ne se rendent même pas compte que Dieu agit. Ils ne se rendent même pas compte que Dieu est présent et agissant. Lorsque vous souvenez-vous des disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs ont fait 7 kilomètres avec Jésus, hein, à côté de Jésus, et c'est seulement au bout de ces 7 kilomètres de marche, alors qu'il était en train de leur expliquer les Écritures, que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu avant. Pourtant, Jésus était là. Pourtant, c'était des disciples. Voyez-vous ? Il faut qu'on ait la vision de la foi. Il faut qu'on ait véritablement. Et alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on va avoir la vision de la foi? Eh bien, ça se fait par le moyen de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, essentiellement au travers de la parole de Dieu. Parole de Dieu prêchée, parole de Dieu lue et méditée devant Dieu. C'est comme ça que les yeux de notre foi et que les yeux de notre cœur s'ouvrent et que nous pouvons voir et que nous pouvons contempler. Dans le psaume 119, il est marqué « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Et nous avons besoin aussi de prier que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Amen. Et il est important, même pour l'avenir, qu'il puisse en être ainsi et que nous puissions là aussi considérer avoir une vision de ce que Dieu veut pour nous au-delà de cette existence, de cette vie-là. Amen. Et c'est ça la grande nécessité et c'est ça le grand désir de Dieu. Je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelait Paul Passy. Paul Passy, qui a vécu de 1859 à 1940, qui était un des pères de la phonétique moderne, qui était professeur à l'école des hautes études à Paris, et qui s'était tourné vers le Seigneur lorsqu'il avait un peu plus de 20 ans, et tout en poursuivant sa carrière universitaire, il a continué à annoncer l'Évangile. Il venait d'un milieu très aisé, et il s'est ouvert aux implications de l'Évangile, qu'il a mis en pratique concrètement, et ça lui a valu pas mal de problèmes. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, et ça lui a valu aussi bien des difficultés. Entre autres, il a été radié de l'université. Par la suite, il y a été réintégré. Et son père, Frédéric Passy d'ailleurs, a été avec Henri Dunant le premier prix Nobel de la paix en 1901. Donc, et voilà ce que cet homme dit vers la fin de sa vie. « J'attends bien paisiblement, quoique sans impatience, l'heure de ma promotion à la gloire. » Donc c'est ce qu'écrivait Paul Passy dans les années 30, à l'approche de ses 80 ans. Quelques années auparavant, dans le dernier chapitre de ses souvenirs, il avait indiqué comment il envisageait son départ. « Je suis de plus en plus convaincu que la source du bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais qu'elle se trouve en nous-mêmes. Cette source, je la porte en moi depuis plus d'un demi-siècle. Il semble que rien ne puisse obscurcir ou altérer ce sentiment d'allégresse constante. » Mes infirmités de vieillard, qui naturellement augmentent peu à peu, n'arrivent pas à l'effleurer. Certes, quand je m'aperçois que je ne peux plus mordre dans une tartine de pain, ou que mes yeux pleurent en lisant, ou qu'une marche de 5 ou 6 kilomètres me fatigue, ou que les noms propres m'échappent, en soi, cela m'est pénible. Mais d'autre part, je trouve un véritable intérêt à observer la diminution progressive de cette vigueur physique dont j'étais si fier. Intérêt de curiosité scientifique, je pense. Et aussi instinct du vieux lutteur, acharné à prolonger pied à pied une résistance qu'il s'est pourtant condamné à la défaite finale. Et surtout, j'éprouve le sentiment très vif que si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce sentiment s'affermit à l'usage. Une fois, une douleur très vive au poignet droit, avec incapacité partielle de le remuer, m'a fait craindre que ce poignet soit menacé de paralysie. Pensée pagaie en soi. Mais tout de suite, je me suis dit, eh bien, si je ne peux plus me servir de ce poignet, Dieu me donnera autre chose et ce sera bien tout de même. Et de mes lèvres a jailli spontanément cette strophe de cantique. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. La douleur a disparu, mon poignet fonctionne toujours. Mais je ne regrette pas cette expérience. Oh non ! Je demande souvent à Dieu, comme une grâce suprême, qu'il me permette de rester actif jusqu'au bout. Mais si au lieu de cela, je dois être cloué sur un lit de douleur pendant des semaines, la perspective ne m'effraie pas. Et si la voix me reste, je continuerai à chanter « Oui, c'est la joie, joie, joie qui remplit tout mon cœur !» Quant à la disparition successive de beaucoup de parents et d'amis que j'aimais tendrement, elle m'est souvent très douloureuse. Mais ma douleur est tempérée par le sentiment toujours plus vif que ce sera bientôt mon tour. Et ce sentiment m'aide aussi à supporter vaillamment ce qui autrement me serait très pénible. Le triste spectacle que présente l'assujettissement croissant du monde à l'idolâtrie de la machine, la domination de la vitesse et du tapage, le matérialisme capitaliste toujours plus arrogant, véritable règne de l'antéchrist. Je me dis que je serai mort avant que la brutalité bourgeoise ne vienne saccager mon coin de forêt. Et c'est encore une grâce. Enfin, quoique je ne veuille pas trop me dépenser en vains rêves sur la félicité du ciel, c'est pour moi une joie intense de savoir que bientôt je verrai face à face mon bien-aimé Sauveur, et avec lui tant de chers disparus qui ne sont pas perdus, mais qui nous ont devancés. Je peux vraiment rendre grâce pour tout, et je voudrais exhaler mon dernier soupir dans un chant d'allégresse. Puisque j'en ai encore le loisir, je vais marquer ici quelques recommandations au sujet de mes obsèques. Je désire être enterré là où je mourrai. J'espère que ce sera à la campagne, mais en aucun cas qu'on ne fasse de transport. Je laisse aux survivants le soin de décider si la cérémonie doit avoir lieu dans l'intimité ou s'il faut faire des invitations. Dans ce dernier cas, que les invitations ne soient pas sur du papier deuil et dans des enveloppes à bord noir, la couleur du désespoir ne convient pas aux chrétiens. Comme verset, on pourrait inscrire « Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil pour le rendre semblable à son corps glorieux. » Philippiens 3, verset 20. Que l'enterrement se fasse avec la plus extrême simplicité. Cercueil en bois blanc, s'il faut absolument un cercueil. Pas de tenture noire. Je ne m'oppose pas à quelques fleurs naturelles, mais en petit nombre et rien de dispendieux. Réunion à la maison ou dans un lieu spécial suivant les convenances. Je laisse encore aux survivants le soin de décider si on prononcera un discours ou des discours. Pour moi, je n'en vois guère l'utilité, en dehors de la lecture de versets appropriés. En tout cas, pas de panégyrique. Si on parle, que ce soit pour célébrer la grâce de Dieu. Mais ce que je désire, c'est qu'on chante, et qu'on chante beaucoup. Des chants de rédemption, d'espérance, de triomphe. Qu'on chante à la maison, en route pour le cimetière, sur le bord de la tombe, en revenant. J'aimerais mieux qu'on ne porte pas mon deuil. Mais si quelqu'un y éprouve de la consolation, je ne m'y oppose pas. Sur la tombe, qui ne doit pas être un caveau, on pourrait mettre simplement une croix très simple debout, avec un verset « La mort a été engloutie dans la victoire. » 1 Corinthiens 15, verset 54. Un homme qui garde la vision de Christ tout au long de sa vie. Un homme qui vise le but de Christ tout au long de sa vie et au-delà de sa mort. Un homme qui considère son héritage et sa possession dans le futur. Amen. Amen. Est-ce que nous avons une vision du futur? Est-ce que nous visons le futur? Est-ce que nous vivons sur ce que nous savons de l'autre monde? Est-ce que déjà nous nous nourrissons de quelques-unes des gouttes de l'arbre de vie qui tombe du ciel? Est-ce que nous vivons de cette manne de l'attente glorieuse du retour du Seigneur? Est-ce que nous avons goûté au fleuve des eaux de la vie qui coule du trône de Dieu? Ce fleuve de grâce, de vie, de puissance, cette eau de la vie, alléluia! Oui, est-ce que vous avez jamais vécu du futur? En vous disant, pour moi, dans la justice, je verrai. Alléluia. C'est ça qui est primordial. Amen. Et puis je dirais que c'est aussi ça la grande raison qui va mettre un homme en branle, qui va le faire s'engager, qui va le faire tenir bon dans l'engagement. Vous savez, quand Martin Luther s'est trouvé dans une circonstance redoutable de sa vie, face, c'est la diète de Worms, donc c'était face à tous ces puissants, à l'empereur, qu'il y avait à ce moment-là, plus les autres nobles, tous les autres puissants qui étaient là et qu'ils essayaient de le faire changer par rapport aux écrits qu'il avait déjà publiés. Eh bien, il est arrivé à cette conclusion face à cette impressionnante assistance. Voilà les paroles qu'il a prononcées. « Je tiens ferme à la vérité que j'ai écrite et j'y tiendrai ferme jusqu'à la mort. Que Dieu me soit en aide. Amen. » Et il a tenu bon. Et pourquoi? Parce qu'il s'est dit, eh bien, quoi qu'il en soit, je serai heureux bientôt. Je serai pleinement satisfait bientôt. Je ne le suis pas encore, mais je le serai. C'était cette certitude, cette assurance glorieuse qui l'a aidé à tenir comme cela. Et je dirais, eh bien, lorsque le missionnaire, par exemple, s'aventure dans toutes sortes de dangers, lorsqu'il voit dans des climats, des régions, des populations inhospitalières qu'il risque sa vie, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il sait ces choses, parce qu'il sait qu'il y a un salaire à venir. Vous savez, on n'aura pas sur cette terre une récompense ou un salaire pour tout ce qu'on a fait. Hein. On ne l'aura pas ici-bas. Il faut quand même qu'on le sache. Il y a bien des choses pour lesquelles on ne sera pas remboursé ici-bas, si on pourrait parler comme cela. Mais la réalité, eh bien, c'est celle-là, c'est que le Seigneur va nous l'accorder. C'est pour cela qu'il faut que nous vivions pour le futur. Hein. Non pas tant chercher les choses d'ici-bas que nous attacher aux choses d'en haut et les rechercher de tout cœur. Et le psalmiste avait cet œil sur l'avenir, hein, sur le futur. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que David, quand il a écrit ceci, était rempli de foi. Et ça aussi, c'est quelque chose. Le texte rayonne de confiance. « Pour moi, dit David, dans la justice, je verrai sa face. Dès le réveil, je me rassasirai de son image. » Et oui, c'est pas juste « Oh oui, j'espère un petit peu, voilà, je voudrais bien, etc. » Mais c'est « Je sais. Je suis persuadé. J'ai une confiance sereine. J'en suis sûr et j'en suis certain. » Combien y en a-t-il ici, dans ce lieu, qui ont une confiance de cette sorte-là en ce qui concerne leur avenir éternel ? C'est une question là qui se pose. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Hein. La foi solide, c'est quelque chose qui doit passer par l'épreuve. Et c'est une nécessité, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est cette foi-là qui nous emmènera dans le ciel. Lorsque regardez David et ses frères, hein, ils expliquaient qu'à un moment, Samuel a été envoyé par Dieu dans la maison d'Isaïe, qui était le père de David et de ses frères. Et Samuel est arrivé, et puis il est marqué dans 1 Samuel 16 qu'il a sanctifié Isaïe et ses frères, donc, et les a invités au sacrifice. Et donc, voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les frères de David, déjà, ils étaient tous circoncis, c'était la marque de leur appartenance au peuple de Dieu. Ils avaient tous été sanctifiés, tous consacrés à Dieu par Samuel. Vous voyez, c'est une image des chrétiens, c'est une image des croyants. Rien, apparemment, ne les différenciait de leurs plus jeunes frères. Et pourtant, aucun d'eux n'était prêt à se battre contre Goliath. Ah, pourquoi ça ? Hein, pourquoi ça ? Pour trois raisons. Pour trois raisons, ils n'étaient pas prêts à se battre contre Goliath. Et David a été prêt à se battre contre Goliath. La première raison, c'est parce qu'ils avaient laissé la peur qui paralysait les autres soldats, paralysait leur propre foi. Ils avaient écouté Goliath. Ah, ils avaient écouté Goliath, ils avaient entendu Goliath. Et voilà, c'était les paroles de Goliath qui les avaient impressionnés. Et vous savez, la peur, c'est une maladie contagieuse. Il faut qu'on fasse attention, hein. Vous avez des gens qui peuvent prononcer autour de nous des paroles de découragement, des paroles d'abattement, des paroles de destruction de la foi. Même des chrétiens peuvent prononcer des paroles comme ça. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est important. Hein? Et puis que nous soyons de ceux qui se laissent nourrir par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous fortifier. C'est l'opinion divine qu'il faut qu'on recherche. C'est là-dessus qu'on bâtira une fondation inébranlable. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas pu aller combattre Goliath, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'expérience précédente. Et oui, c'est vrai, aucune expérience précédente dans la puissance et dans la protection divine. Ils ne s'étaient jamais battus auparavant pour défendre quelque chose d'important dans leur vie. Et les petites batailles sont là dans notre vie pour nous aguerrir et nous permettre d'affronter les grandes batailles qui vont déterminer notre destinée. Le lion que tu as, David, ce n'est pas facile de combattre un lion, hein ? C'est pas facile de combattre un lion lorsque il n'a même pas une lame en métal, hein, parce qu'il était un berger, il n'était rien, donc il a combattu avec quoi ? Un bâton, des pierres ? Il a combattu un lion. Et puis il a vaincu le lion avec le secours de Dieu. Et après il a combattu quoi ? Qu'est-ce qu'il a combattu après ? L'ours, exactement. Ben, vous êtes déjà allé vous jeter dans les bras d'un ours qui vous tend les bras comme ça, sur ses pattes de derrière, hein ? Donc c'est quelque chose ça. Et il a vaincu l'ours. Et c'est parce qu'il a vaincu le lion et qu'il a vaincu l'ours avec le secours de Dieu qu'il a pu aller contre un ennemi encore plus grand qui s'appelait Goliath, qui était redoutable. Et il le dit très clairement. « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de celle de l'ours me délivra aussi de la main de ce Philistin. » 1 Samuel 17, verset 37. « Souvenez-vous de vos expériences avec Dieu. C'est elles qui vous feront votre force dans les jours de crise. » Et puis une troisième chose, ses frères, les frères de David, ils avaient une belle apparence, ils avaient une belle prestance, mais ils n'avaient pas un cœur attaché à Dieu. Ils n'avaient pas un cœur dévoué à Dieu. Et aussi, le Seigneur les a rejetés en disant, non mais voilà, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et qu'est-ce qu'il savait? Voilà, David, c'était quelqu'un de la force spirituelle, si on peut parler, c'était développé. Donc, ben oui, déjà par les merveilles de la création, lorsqu'il bénissait Dieu, et puis par son esprit, puis par sa parole, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, pouvait-il dire depuis bien avant. Est-ce que nous pouvons en dire autant? La question, c'est ça, mes amis. Si nous voulons être les victoires de la foi, si nous voulons qu'il puisse véritablement y avoir dans notre cœur cette ferme assurance, eh bien oui, c'est vrai, Dieu ne va pas simplement nous donner des armes et puis nous faire de nous de puissants guerriers sans que nous allions lutter, hein. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que nous avons besoin, véritablement, de nous tourner vers le Seigneur et de nous attacher à lui. Et si nous le faisons, eh bien, le Seigneur saura aussi nous fortifier et le Seigneur saura aussi agir pour nous. Vous connaissez la différence qu'il y a, les différences qu'il y a, là encore, trois différences, entre le palmier et la plupart des autres arbres. Le palmier, déjà, première chose, un arbre, vous pouvez le tuer, c'est très facile de tuer un arbre. Même un chêne qui a 100 ans, un grand et beau chêne, vous pouvez le tuer très facilement. Il suffit que vous découpiez une bande d'écorce tout autour du tronc et l'arbre est mort. C'est fini. Pourquoi? Parce que la sève, celle qui monte et celle qui redescend, elle passe juste sous l'écorce, là, dans une fine petite pellicule qu'il y a là. Et elle passe juste, et si vous coupez ce circuit, l'arbre est mort, même qu'il est immense, il est mort. Un palmier, vous n'arriverez pas à lui faire ce coup-là. Pourquoi? Parce que le palmier, lui, à la différence de la grande majorité, l'immense majorité des autres arbres, eh bien, sa sève passe au milieu du tronc, voyez-vous? Elle passe au milieu. Et nous aussi, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une communion profonde, une sève, que la sève coule dans notre propre cœur, à chacun. Hein. Donc, ne pensons pas à court terme, mais considérons l'avenir lointain, devrons les yeux fixés sur les promesses que Dieu nous a faites, même si peut-être elles tardent à se réaliser à notre propre estimation. Revenons-en au palmier. La deuxième chose avec le palmier, c'est que le vent peut le courber même jusqu'à ce que ses palmes touchent terre, hein, par un ouragan par exemple, tempête terrible, sans le déraciner, hein, sans parvenir à briser son tronc. Et c'est vrai que dans ces régions où il y a des cyclones, etc., vous apercevez que les palmiers sont ceux qui arrivent le mieux à résister. Et nous avons été faits, conçus, pour pouvoir courber l'échine sous les tempêtes de la vie sans pour autant être brisés. Ne nous faisons pas d'illusions. Lorsque dans le livre de Job, il est marqué « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler », c'est la description d'une réalité. C'est une réalité, ça. Dans l'existence, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Mais la différence, c'est que Dieu est celui qui, est, lorsque nous passons dans la souffrance, dans l'épreuve, eh bien, il veut nous fortifier pleinement pour que nous puissions tout supporter et parvenir jusqu'au bout à persévérer même dans la joie, est-il écrit. Amen. Hein? Et ça, c'est la deuxième chose. Et au fur et à mesure qu'on apprend à persévérer dans les difficultés, eh bien, on découvre que Dieu est prêt à nous confier davantage de responsabilités et de bénédictions. Et puis la troisième chose, c'est le palmier que vous voyez, c'est que la profondeur de ses racines excède la hauteur de son tronc. Vous avez beaucoup d'arbres, bon, ils ont des racines en surface, ils ont peut-être une racine pivotante qui descend en dessous, qui peut descendre peut-être, oui, à une certaine distance, mais très rares sont les arbres qui ont des racines qui vont aussi profond que celles du palmier. Hein. Vous avez peut-être l'acacia dans certaines situations difficiles, mais elles sont capables d'aller très profond pour chercher de l'eau dont il a besoin. Et rappelez-vous comment David dit, comme une biche soupire, nous l'avons dit, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions avoir de profondes racines, que nous ne soyons pas déracinés par les épreuves, et que nous puissions continuer à porter du fruit sans jamais être balayés par les tempêtes. Et alors à ce moment-là, si on va affronter une crise particulièrement difficile, ben on ne s'exclamera pas, « Oh Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis ça ?» À ce moment-là, on va se dire, « Mais Seigneur, quel est ton plan au travers de tout cela? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne au travers de ces difficultés-là? » Et puis après, on peut lui faire confiance et il nous soutiendra, nous redressera après l'orage, plus solide qu'avant. Amen. Amen. C'est important, important que cette véritable foi puisse être rendue. Et voyez cela en David, pour moi dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Maintenant, considérons le contenu de ce passage. Et voyez que ce verset contient une double bénédiction. Hein, d'une part, la première, c'est une vision. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. La deuxième, c'est une satisfaction. C'est « je me rassasirai de ton image ». On ne va pas s'étendre trop sur la vision. On a déjà parlé un petit peu de la nécessité d'avoir une vision du cœur. Mais en tout cas, David s'attendait à voir la face de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la face de Dieu, mais je crois qu'on peut déjà dire que nous avons tous vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre déjà. Déjà, nous voyons la main de Dieu à l'œuvre au travers de la création, n'est-il pas vrai ? Hein, lorsque vous voyez les choses magnifiques, lorsque vous voyez l'harmonie, l'ordonnancement, la façon dont les choses sont faites, la correspondance des besoins avec les solutions, lorsque vous voyez tout ça, hein, que ce soit dans le plus grand, lorsque vous prenez les télescopes les plus puissants et que vous voyez l'harmonie qu'il y a dans tout cet univers qui est là, comme dans les plus petites choses, à l'inverse, hein, celles que les scientifiques nous annoncent régulièrement, le décrivant aussi la perfection de l'infiniment petit. Lorsque tout cela, on le voit, eh bien, au travers de tout cela, eh bien, on voit la main de Dieu à l'œuvre. On ne voit pas toute la main de Dieu, bien sûr. Parce que la main de Dieu, elle tient tout cela en elle. On voit peut-être, je ne sais pas moi, mais même pas un millionième de la main de Dieu. Hein. Mais en tout cas, c'est une réalité. On voit la main de Dieu. Et puis, bien sûr, lorsqu'on a vu des miracles, lorsque, là, quand je regarde cette assemblée, eh bien, je sais que parmi nous, il y en a plusieurs dans lesquels il y a eu vraiment, dans la vie desquels il y a vraiment eu des miracles signalés de la puissance de Dieu, que ce soit pour des guérisons, que ce soit pour des délivrances, des exaucements de situations vraiment compliquées. La main de Dieu est à l'œuvre. Amen. Hein, donc, on peut le discerner, on peut le voir. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous savez, moi, quand j'entends le tonnerre, voyez, les gens, ils ont peur quand ils entendent le tonnerre qui va les éclairer. Moi, quand j'entends le tonnerre, je n'ai pas peur. Je me dis, mais ça, c'est la voix de Dieu, déjà. La voix de Dieu, là, c'est une façon que Dieu a de se faire comprendre, de commencer essayer de nous faire comprendre les choses. C'est quelque chose de puissant. C'est la voix de basse de Dieu, quelque part, si on peut dire. Et encore, hein, lorsque je dis ça, c'est bien peu de choses par rapport à la voix de Dieu. Mais c'est quelque chose. Lorsque la parole de Dieu nous parle de voix qui sont comme des bruits de grandes eaux dans l'Apocalypse. Vous savez, j'ai écouté de grandes eaux, une grande chute, un grand Niagara ou quelque chose comme ça. Mais c'est puissant, ce sont des choses puissantes. Dieu parle déjà. Et Dieu parle aussi de toutes sortes de façons. Il parle aussi par le murmure. Hein. Et puis bien sûr, il nous parle par l'écriture. Mais en tout cas, la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose. Mais Dieu, David dit, je verrai non seulement ta main, non seulement j'entendrai ta voix, mais je verrai ta face. Alléluia. On raconte au sujet du temple de Diane, autrefois, qu'il était décoré d'une façon tellement splendide, d'or resplendissant et étincelant, qu'il y avait un portier qui était à l'entrée et qui disait continuellement à ceux qui entraient, « Prenez garde à vos yeux, prenez garde à vos yeux, vous serez frappés de cécité si vous ne prenez pas garde à vos yeux. » Voilà, c'est ce qu'il disait. Mais cette vision de gloire, cette grande apparition, cette vision de Dieu, le voir face à face, entrer dans son ciel, voir les justes briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mais mieux que tout, considérer celui qui est sur le trône éternel, le voir siéger. Et là, bien, comment est-ce qu'on va pouvoir décrire cela ? Combien les mots humains sont infiniment pauvres pour tenter de parler de cet extraordinaire sujet, voir la face de Dieu, le rayonnement de ses yeux, la majesté de ses lèvres qui prononcent des paroles de sainteté, d'amour, d'affection, voir sa face. Quelle gloire, quel amour, alléluia, c'est vrai. Alors peut-être certains parmi nous ont-ils déjà pu expérimenter un petit peu, je dirais quelque part, plonger dans cette mer de divinité, d'avoir discerné son immensité. Les esprits mauvais pourraient en parler eux-mêmes, parce qu'ils ont connu cela jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas le parler, ils ne peuvent pas voir cela. En tout cas, pardon, chacun d'entre nous devons aller là. Hein, en tout cas, c'est le désir de Dieu. C'est que nous soyons revêtus d'immortalité. Alléluia. Nous devons aller au-dessus du ciel bleu. Nous devons aller à la source du fleuve de la vie. Et enfin, nous y plonger. Enfin, être entièrement et puissamment vivifiés. Et il en sera ainsi. Le désir de Dieu, c'est cela. Alors, les mots ne peuvent pas en parler. C'est pourquoi nous arrêterons là. En tout cas, la certitude de David, c'était qu'il verrait la face de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a en même temps une douceur particulière qui est mêlée à cette joie parce qu'il sait qu'il verra la face de Dieu dans la justice. Pardon. Dans la justice. Et ça aussi, c'est glorieux. Dans la justice, je verrai ta face. C'est vrai. C'est vrai, on a déjà pu quelque part voir la face de Dieu ici-bas, hein, voir la face dans certains moments. Certains moments de communion, je pense, en tout cas, si on est un chrétien, eh bien, on a dû ces moments particuliers où, quelque part, l'esprit se détache des choses de la terre, hein, où le matérialisme grossier, ben, quelque part, se meurt, et alors la flamme du feu intérieur, la flamme du feu spirituel intérieur va brûler plus haut et plus fort. Et ça, c'est quelque chose, hein, qui anticipe cette flamme du ciel. Et c'est vrai qu'il y a une saison, peut-être, dans un endroit retiré, calme et paisible, loin des pensées de la terre, eh bien, on a enlevé nos souliers de nos pieds. Pourquoi ? Parce que le lieu sur lequel on était, c'était vraiment une terre sainte. Amen. Et on a pu parler avec Dieu. On avait parlé avec Dieu comme Enoch avait une communion intime avec Dieu. Ainsi, le chrétien aussi a une communion intime avec son Père. Amen. Et le Seigneur est celui qui déjà lui a fait entendre ses murmures d'amour et lui a déjà révélé quelque chose de son amour et de sa bonté dans sa justice. Amen. Quel jour glorieux lorsque, enfin, je pourrai voir mon Sauveur face à face dans sa beauté, dans sa justice. Alléluia. Et puis, une autre bénédiction dont nous parlons rapidement, mais qui est aussi contenue là, c'est la satisfaction. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit, dans la justice, je verrai ta face, je me rassasirai. Donc, c'est marqué, voilà. Je me rassasirai de ton image. Vous avez cette idée de rassasiement, cette idée de pleine satisfaction. Et ça aussi, c'est quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous savez déjà, ici-bas, bien, le chrétien, normalement, doit être peut-être dans la reconnaissance, peut-être déjà dans la satisfaction. Alors, il faut encore relever que malheureusement, au milieu du peuple de Dieu, hein, tout n'est pas comme cela. Et on s'aperçoit que, par exemple, pour ce peuple qui marchait dans le désert, eh bien, il est écrit dans Nombre 21, par exemple, en cours de route, le peuple perdit patience, les gens se sont mis à critiquer Dieu et Moïse, pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte ? C'est pour nous faire mourir dans le désert ? Voilà. Alors que Moïse les conduisait là hors d'Égypte, ils se sont mis à s'impatienter, à parler contre Dieu et contre leur guide, et ils ont reproché à Moïse de leur infliger les rigueurs du désert. Le manque d'eau, tout leur devenait insupportable. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, ont-ils dit, de cette manne miraculeuse qu'ils recevaient chaque matin. Ils avaient déjà oublié toutes les misères qu'ils avaient vécues en Égypte. Vous savez, les corvées, les menaces, les coups, les restrictions, l'oppression. Ah ben, il n'y a pas si longtemps encore. Ils chantaient la délivrance, ils chantaient la liberté. Mais voilà, la terre promise est encore loin et l'ingratitude des enfants gâtés devient leur mot d'expression préféré. Voilà, hein, donc, et on peut trouver ce comportement indigne, et on peut le trouver odieux, et il l'est, effectivement. Et cependant, prenons garde de ne pas trop vite critiquer la mémoire courte des Hébreux, hein. Et il faut déjà commencer par s'examiner si nous, on n'est pas trop facilement oublieux des bontés de Dieu dont on a profité et joui, si on est pas prompt à manifester notre ingratitude et notre mesquinerie lorsque les choses vont pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Hein. Pourquoi ? Bien parce que, voilà, on peut être engagé à un moment des prières, de supplications, n'est-ce pas ? On a d'urgents besoins, et puis on espère une intervention d'en haut, et puis un miracle divin, et puis lorsque vient la réponse, la délivrance, l'exaucement, voilà, un rapide merci murmuré, hein. Et puis après, ben, on ne garde pas longtemps la notion de reconnaissance et de générosité qui est due à Dieu. Hein, donc, trop vite, on en revient à, voilà, à remettre les choses en cause, à maugréer peut-être à la première difficulté, à nouvelle résistance. Les Hébreux se montraient irrités, mais qu'est-ce qui s'est produit? Ben, ils ont suscité l'irritation, justifiée, elle, l'irritation de Dieu, hein, donc justifiée. Et vous savez que malheureusement, comment ça s'est continué pour eux. Vous savez, il y a dans cette leçon une histoire qui est importante pour nous aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que le croyant, lorsqu'il est sur cette terre, il a de quoi être satisfait. Il a de quoi véritablement être reconnaissant. Il a de quoi manifester sa gratitude envers Dieu. Et c'est important et nécessaire et salutaire qu'il le fasse. Mais lorsqu'il entrera dans le ciel, alors son imagination sera pleinement satisfaite, est-il marqué. Pleinement satisfaite. Tout ce qu'il a pu penser, toute idée sainte qu'il a pu avoir, toute conception de grandeur concernant le ciel, tout cela, ça devient réalité, deviendra réalité et beaucoup plus encore. Toute imagination glorieuse deviendra une réalité tangible qu'il pourra voir et ce sera tellement plus extraordinaire encore. Et même si on s'asseyait pour penser pendant l'éternité, eh bien, on ne pourrait pas concevoir quelque chose qui puisse surpasser l'état de cette glorieuse et merveilleuse cité. Notre imagination sera satisfaite. Amen. Non seulement cela, mais notre intelligence, notre compréhension, notre connaissance des choses. Ici-bas, il y a des secrets qu'on voudrait connaître, il y a des choses qu'on voudrait savoir, il y a des profondeurs dans tous les domaines dans lesquels on n'est jamais entré. Mais dans cet état glorieux, eh bien, nous désirons tout ce que nous désirons connaître et bien plus encore. Alléluia. L'espérance sera satisfaite aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à cela dans le ciel. Nous espérons, bien sûr, en une éternité future. Pour l'instant, nous y sommes. Et puis, nous y croyons et nous y croirons. Et nous serons continuellement satisfaits dans nos attentes et dans toutes nos espérances. Alléluia. L'être humain sera continuellement satisfait et tellement content qu'il ne remettra pas en cause la moindre décision de Dieu et qu'il voudrait en changer. Toute la volonté de Dieu lui sera agréable. Vous savez, je veux dire peut-être une chose qui va faire frémir certains, mais les justes dans le ciel, par exemple, seront parfaitement satisfaits de la perdition des perdus, de la damnation des perdus. Et oui, c'est vrai. Hein, pendant un temps, je pensais que, ben oui, mais peut-être, voilà, si je voyais des perdus en enfer, ben que je pleurerais sur eux en étant dans le ciel, hein, ou bien, voilà, si on entendait leurs cris terribles, etc., eh bien, qu'on aurait pitié d'eux, mais vous savez, dans le ciel, il n'y aura pas ce sentiment-là. Dans le ciel, il n'y aura pas ce sentiment-là. Hein, pourquoi ? Parce qu'on sera satisfait de la volonté de Dieu. Hein, et on se dira que Dieu a fait les choses pour le mieux, même concernant leur perte, et que c'est de leur propre faute, et que Dieu est infiniment juste en cela. Et si mes parents m'avaient vu en enfer, hein, ben moi c'était ce qui me travaillait, si mes parents me voyaient en enfer, ils ne verseraient pas une seule larme pour moi. Donc, même s'ils étaient au ciel, et ils diraient, c'est justice, ô grand Dieu. Ta justice doit être magnifiée aussi bien que ta grâce. Voilà, c'est cette réalité-là. Et plus encore, ils ressentiraient que Dieu est tellement au-dessus de la nature humaine, que si cette créature bien, doit être quelque part annihilée, et que cela doit augmenter la gloire de Dieu, la manifestation de sa justice, eh bien, qu'il en soit ainsi. Vous savez, dans le ciel, on aura une juste idée de l'homme. Ici-bas, l'idée de l'homme, elle est complètement bouleversée. Hein, c'est de l'anthropocentrisme, voilà, il faut, l'homme, c'est le centre de tout, soi-disant. Mais en attendant, ben, on est prêt à tuer les enfants dans le ventre de leur mère. En attendant, on est prêt à liquider des personnes âgées. Hein, donc, voilà. Alors, on dit l'homme. Puis, en réalité, ben, c'est pas du tout de cette manière-là. Parce que là, bien, les choses seront comme elles doivent être. Et ce qui prime, c'est la gloire de Dieu. Et ce qui primera, c'est la gloire de Dieu. Et puis, les hommes, ils seront quoi? L'Écriture nous le dit, comme les gouttes d'un seau, comme la poussière d'une balance. Rien du tout. Réduit simplement à leur état de ce qu'ils sont normalement. Voilà, rien de plus que cela. Hein, donc, ils sembleront si insignifiants que lorsque nous serons sur ces hauteurs avec Dieu, eh bien, nous nous satisferons de cela, même nous serons rassasiés, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Et puis maintenant, pour en finir, ben vous avez ce triste contraste qui est impliqué. C'est vrai parce que, vous savez, nous sommes là aujourd'hui. Si le Seigneur revient, tout sera bouleversé. Et puis quoi qu'il en soit, on partira tous. Quoi qu'il en soit, eh bien, il y a un moment, eh bien, on fermera nos yeux et à ce moment, on se réveillera. Eh oui, Et à ce moment-là, on se réveillera. L'Écriture nous dit cela, parce que la scène va s'éclairer de nouveau. Hein. Vous savez, tant qu'on est sur cette terre, eh bien, on est comme un songe. Hein. On est comme la rosée de l'herbe hein, qui bientôt se dissipe. Hein, voilà. On arrive sur la scène, vous et moi. On est de passage sur cette scène, et dans laquelle chacun joue son rôle, chacun joue sa scène pendant ce grand théâtre de l'existence. Puis après, on passe derrière le rideau. Et là, on enlève son masque. Et après, on parle avec Dieu pour lui dire ce qu'on a fait, et puis et donc pour lui rendre compte. Ah, ça, c'est les choses qui vont se passer comme ça. Et donc, c'est pour ça que la scène va s'éclairer à nouveau. Ça va être, oui, ça va être rapide. Hein. C'est une scène, le rideau va se lever et nous éveillerons tous là. Et puis, nous serons tous là, bien plus nombreux que dans cette salle et bien plus attentifs que dans cette salle à ce moment-là. Hein. Donc, à ce moment-là, il n'y aura qu'une seule distinction entre tous. Soit les justes, soit les méchants. Soit les sauvés, soit les perdus. Il n'y a pas d'autre solution. Et alors la parole de Dieu nous explique ce bouillonnement qu'il y aura de la mer à gros remous, les cieux déchirés, les nuages formés, façonnés en un char, Jésus debout sur ce char, porté par des ailes de feu, chevauchant dans les cieux, son trône est prêt, il s'est assis dessus, c'est un immense trône, c'est le grand trône blanc, et puis il va faire marcher le monde, avec, monde entier avec une verge de fer. Vous savez, il n'y a rien de plus sûr que ça. Comme prophétie, il n'y a rien de plus certain que ça. Ça va se passer, ça. Tout le reste ne peut pas se passer, mais ça se passera. Il faut quand même qu'on le sache et qu'on le réalise. Et voilà que le Seigneur ordonne que les grands livres soient ouverts. Hein, des livres où sont inscrits toutes les œuvres de tous les temps, et aussi les noms des rachetés dans certains de ces livres. Et voilà qu'il ordonne aux puissances d'en haut de faire cette œuvre de division, de faire cette œuvre de séparation. Et plus rapidement que la pensée, voilà que la séparation s'opère. Et il me semble les voir tous séparés, tous divisés. Hein. Les justes sont à sa droite et il se tourne vers eux. Et avec une voix plus douce que la plus douce des musiques, il leur dit « Venez, approchez-vous. Continuez à venir. Donc, continuez votre avancement, votre progression. Venez parce que ça a été l'œuvre de votre vie que de venir. Alors, continuez. Franchissez maintenant la dernière marche. Venez, bénis de mon Père. Héritez le royaume préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Et puis voilà maintenant que les autres sont là. Et les autres sont là, ils restent seuls. Et ils se tournent vers eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, allez-vous-en, éloignez-vous. Vous vous êtes éloigné tout au long de votre vie. Votre affaire, c'était de vous éloigner de moi. Vous ne vouliez en faire qu'à votre tête. Vous n'avez voulu faire que votre volonté. Vous n'avez pas voulu vous approcher de moi. Alors, vous êtes éloigné. Eh bien, continuez maintenant. Prenez la dernière marche. Alors, je peux imaginer qu'ils n'osent pas bouger, qu'ils sont immobiles. Et alors, quel changement d'apparence chez le Seigneur. Quel regard terrifiant. Le Sauveur devient le Vengeur. Souvenons-nous que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et voilà que ses mains qui se tendaient pour accorder la grâce empoignent maintenant l'épée de la justice et du jugement. Et ses lèvres qui prononçaient des paroles d'amour font retentir le tonnerre et avec un but de destruction, il lève son épée là-bas au milieu d'eux et il fuit. Et il fuit comme le gibier devant le lion et ils entrent dans la grande gueule du puits de l'abîme, dans le terrible gouffre de la perdition pour toujours. Venez à Jésus aujourd'hui. Et que ces paroles d'espérance puissent vraiment être les vôtres. Que ces paroles dans ce psaume puissent vraiment être votre certitude, votre conviction. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. C'est encore toi le Sauveur, l'unique Sauveur. Et voici qu'encore aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Pour accueillir tous ceux qui s'approchent, pour accueillir tous ceux qui viennent à toi, pour accueillir tous ceux qui ont des aspirations spirituelles dans leur cœur, pour accueillir tous ceux qui veulent venir à Jésus et le recevoir comme leur Sauveur et leur Seigneur, pour accueillir tous ceux qui veulent que leur foi puisse être fortifiée, que leur foi puisse être affermie, que leur foi puisse être assurée, qu'ils puissent avoir dans leur cœur une puissante certitude, comme celle que David exprime au travers de ce passage. pour que même au travers des épreuves, même au travers des oppositions, ils puissent avoir ce flambeau qui les fasse tenir et avancer dans le chemin de la vie. Merci mon Sauveur et mon Dieu. Et béni sois-tu Seigneur, parce que s'il en est aujourd'hui qui veulent ainsi se confier en toi, eh bien tu veux poser ta main de grâce sur leur vie et poursuivre cette œuvre puissante et bénissante en eux. Amen, Jésus, alléluia. Pendant que nous restons dans la prière et le recueillement, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui justement se dise, eh bien oui, eh bien Seigneur, tu vois, Seigneur, je prends ta parole, je saisis ta parole et je veux la mettre en action et en œuvre avec ton secours. Lève-toi à ta place, mon frère, lève-toi à ta place, ma sœur, et prononce maintenant devant Dieu cette prière dans ce passage de l'Écriture, ce passage de la prédication qui t'a particulièrement touché, là où le Seigneur t'a spécialement parlé. Prends ce passage et mets-toi devant Dieu maintenant, encore dans ton cœur, et prie-le de tout ton cœur, maintenant, alléluia, prie-le de tout ton cœur pour que cette œuvre se fasse en toi, qu'elle se fasse pour toi, alléluia, alléluia, c'est toi Seigneur qui vois, c'est toi qui vois ses frères et sœurs, c'est toi qui vois ses bien-aimés Seigneur, chacune et chacun pour sa part Seigneur Jésus, tu vois le désir qu'ils expriment, tu vois la prière qu'il y a dans leur âme Seigneur, alléluia, oh tu vois l'aspiration, tu vois le soupir, Seigneur, tu vois vraiment la manifestation de ta bonté, de ton amour, Seigneur, que tu veux encore leur accorder, Seigneur, oh, dans ton nom puissant, Jésus, qu'une œuvre se fasse en ce jour, une œuvre pour la vie, une œuvre pour l'éternité, Seigneur, alléluia, une œuvre puissante de foi, une œuvre d'affermissement, une œuvre d'encouragement, Seigneur, une œuvre de révélation, Seigneur, mon Dieu, alléluia, merci notre Dieu, nous te bénissons là encore pour ta merveilleuse présence et pour ton immense amour. Sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Sois glorifié, mon roi. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Plusieurs annonces. Je rappelle, la réunion de prière, c'est mercredi à 20h15. Question-réponse biblique, vendredi à 19h15. Réunion d'évangélisation le vendredi à 20h15, d'évangélisation dans les villages à 14h30 le samedi. Amen.